Au bout de la plume, l'émission littéraire de Radio Alpes-Mancelles. Au bout de la plume, pour partager ensemble le plaisir d'écrire, la passion pour la lecture et faire partager vos talents d'écriture. Au bout de la plume, un rendez-vous hebdomadaire sur votre radio, à Radio Alpes-Mancelles 106.3 FM.
Aujourd'hui, dans votre magazine Au bout de la plume, sur l'antenne de Radio Alpes-Mancelles, nous allons parler d'un livre pour apprendre la pédagogie radiophonique. Ce livre, c'est Proximité. Pour en parler, nous recevons Éric Lucas, qui a participé à cet ouvrage avec 5 autres personnes et qui est délégué national à l'éducation au Syndicat national des radios libres. Alors Éric Lucas, bonjour.
Bonjour.
Alors nous allons parler de ce livre dans un premier temps. Déjà, de quoi parle-t-il?
Alors, comme le dit un petit peu le mot générique Proximité, c'est le croisement entre la notion de proximité, donc être proche, et l'inclusion dedans de EMI, qui veut dire éducation aux médias et à l'information. Tout ça pour dire que il faut se préoccuper des questions d'éducation aux médias et à l'information, mais il faut s'en préoccuper avec une approche pédagogique, et c'est justement ce que nous avons développé dans cet ouvrage avec nos collègues, c'est la pédagogie radiophonique. On est les premiers en France à avoir utilisé ce terme de pédagogie radiophonique. En gros, ça veut dire que quand on intervient quelque part en éducation aux médias et à l'information, on n'intervient pas n'importe comment. Il ne suffit pas, par exemple, d'être un bon journaliste ou un bon technicien de radio ou un bon dirigeant de radio pour être forcément pédagogue. On le sait bien dans tous les domaines. C'est pas parce qu'on a des connaissances dans un domaine qu'on est forcément capable de les transmettre à d'autres. C'est la différence entre la connaissance et la pédagogie qui doivent absolument se compléter pour être efficaces.
Et justement, pourquoi avoir écrit sur la pédagogie radiophonique ?
Parce que les radios libres, principalement, sont depuis plus de 40 ans engagées dans des actions d'éducation aux médias à l'information. Depuis que les radios existent, donc depuis 82-83, on a vu arriver plein de jeunes. Dans les radios, à l'époque, les bénévoles, pour beaucoup, avaient 13-14 ans. C'était assez étonnant. Et on se posait pas la question de pédagogie. Ils étaient comme les adultes. Et puis, on a constaté que, finalement, ils développaient beaucoup de compétences personnelles, de compétences sociales, à travers leur implication dans les radios. Et c'est là qu'il y a un certain nombre de gens, déjà dans les années 80, qui se sont dit, bon, il faut se poser la vraie question de la valeur éducative de la radio. Et c'est là que, par exemple, se sont créées des radios au milieu scolaire, ce qui a été le cas de Fréquencier dans le département, ou de Radio Prévert, ou de Cartable FM, ou de Contact FM, donc le département de la Sarthe étant le département dans lequel il y a le plus de radios en milieu scolaire en France. Et évidemment, si on créait des radios en milieu scolaire, c'était bien sûr parce qu'on avait vu que la pratique radiophonique pouvait être directement liée à de multiples apprentissages à l'intérieur de l'école, à l'époque où l'éducation aux médias et à l'information n'était pas encore une priorité de l'éducation nationale.
Et dans un premier temps, qui est à l'origine de ce livre ?
Je vais dire que je suis un peu à l'origine de ce livre dans la mesure où on avait répondu à un appel à projet du ministère de la Culture sur l'éducation aux médias et à l'information, car le ministère de la Culture pousse depuis quelques années très sérieusement à travailler dans ce domaine, et donc on avait proposé de travailler justement sur des outils de pédagogie radiophonique. Et on aurait dû commencer ce bouquin juste avant le Covid, mais comme on a écrit à plusieurs mains et à plusieurs têtes, c'était pas facile évidemment de travailler à distance. Il fallait qu'on puisse se rencontrer et c'était compliqué puisqu'on a des collègues à Montpellier, à Compiègne, ici en Sarthe, à Rodez. Enfin bon, voilà, c'était pas simple. Ce qui fait qu'on a décalé de 1 an et demi pratiquement le travail et la production de ce bouquin de façon à faire quelque chose de vraiment bien. Et donc c'est le Syndicat National des Radios Libres qui a eu l'initiative de produire cet ouvrage qui est très innovant dans l'approche de la question de l'éducation aux médias.
En effet, vous êtes 6 à avoir contribué à ce livre. Est-ce que vous pouvez vous présenter dans un premier temps et présenter les autres personnes présentes pour la création de ce livre ?
Oui, alors je vais présenter les autres d'abord. Alors on a Laure Meraville qui tient Point Pige, Point Information Jeunesse, qui est à l'intérieur d'une radio à Clapas, Radio Clapas, qui est une radio bien implantée sur Montpellier et qui développe depuis longtemps des programmes très solides en matière d'éducation aux médias, donc une belle expérience. Voilà, donc ça c'est pour le côté montpelliérain. On a sur Rodez, Pierre-Étienne Vampou, qui a travaillé un moment comme bénévole à Radio Rencontre à Dunkerque, puis est devenu proviseur de lycée privé à Rodez. Fréquence Sillé, d'ailleurs, en tant qu'organisme de formation, était intervenu pendant une semaine à Rodez, il y a déjà pas mal d'années, quand la radio avait été lancée, pour former les premiers acteurs de cette radio qui s'appelle Radio Temps Rodez. Donc Pierre-Étienne Vampouille, avec qui j'ai beaucoup collaboré aussi sur beaucoup de programmes européens précédemment. Je vais citer également l'équipe de Radio Laser à Guichen. Radio Laser qui développe également des programmes de formation avec une structure qu'ils ont créée qui s'appelle la Skol Radio et qui intervient beaucoup donc en éducation aux médias en Bretagne. Également citer Nicolas Calmel de Graphite FM à Compiègne, donc qui lui aussi développe des programmes d'éducation aux médias et dans une région qui est parmi les plus dynamiques de France dans ce domaine parce que beaucoup d'acteurs se sont réunis. La DRAC, donc ministère de la Culture, les services de l'éducation nationale, les CLEMI du secteur sont très bien mis en réseau, donc il se passe des choses intéressantes. Et puis ben, la Sarthe avec donc Théo Guiton qui est aujourd'hui donc salarié donc à Fréquence Sillé et qui a été dans un premier temps lycéen, découvrant la radio en tant que lycéen, puis ensuite partant faire des études de ci de là avant d'aller vers un contrat de formation en alternance avec l'école supérieure de journalistes de Montpellier et qui a l'avantage d'avoir vécu l'éducation en médias en tant que lycéen et ensuite en m'accompagnant sur un certain nombre d'actions. Bon, pour ma part, moi j'ai été créateur de Radio Alpes-Mancel, puis 10 ans plus tard, créateur de Fréquence Sillé, et donc 40 ans d'expérience en matière de radio, et puis depuis 2004, je suis délégué national à l'éducation et au SNRL, et donc le champ de l'éducation en médias est vraiment un champ sur lequel je peux me permettre de m'exprimer dans la mesure où j'ai la vision d'enseignant, puisque j'ai été prof d'histoire géo, j'ai la vision d'acteur de radio, et j'ai été en plus pendant plus de 30 ans formateur au CLEMI, qui a été créé en 1982 par Jacques Gonnet, avec Christian Poslaniec d'ailleurs, hein, qui est quelqu'un de notre secteur et qui était un des 3 créateurs du CLEMI. Bon, enfin voilà, de nombreuses interventions un peu partout, y compris à l'échelle internationale, européenne ou francophone. Donc nous avons tous une légitimité pour nous exprimer. Ce n'est pas une approche uniquement, on pourra dire, universitaire. Il y a beaucoup d'approches universitaires de l'éducation aux médias et à l'information. Là, on est vraiment sur une approche de gens de terrain qui justement vont vers la réflexion universitaire, mais à partir de la pratique de base.
Et justement, quel a été votre rôle dans l'écriture de ce livre ?
Ben moi, je me suis tapé le boulot de, comme on dit, de rédacteur en chef, hein. C'est-à-dire que c'est moi qui ai managé l'ensemble de l'équipe et j'ai apporté une attention plus particulière à 2 parties. Une partie qui porte sur les compétences et les évaluations, donc avec l'idée que l'idée à défendre, c'est que si on implique des jeunes dans des actions d'éducation aux médias et à l'information, c'est pas uniquement pour qu'ils comprennent bien comment fonctionnent les médias ou qu'ils soient capables de faire un flash ou une brève radiophonique, mais qu'ils développe des compétences qui ne sont pas forcément celles qu'on attend en termes de compétences personnelles, compétences sociales, compétences civiques. Et donc là-dessus, on pousse à une approche par compétences sur les activités en éducation aux médias, à l'information, et surtout à une valorisation de l'acquis. Donc moi, j'ai développé toute cette partie-là parce qu'on avait travaillé là-dessus à l'échelle européenne en créant des référentiels de formation, des référentiels de compétences il y a 10 ans. Donc on a déjà des outils solides. Et puis j'ai créé aussi dans cette partie là, un glossaire, un énorme glossaire de 30 pages qui croise en fait le vocabulaire de l'éducation et le vocabulaire des médias. Et c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des définitions qui sont un peu insolites et en fait qui permettent à 2 mondes de se parler. Qu'est-ce qu'on veut faire à travers ce bouquin ? On s'adresse à 2 publics en fait. On s'adresse au public des radios, des gens qui interviennent en éducation aux médias, et également aux enseignants qui veulent utiliser la radio comme outil pédagogique. Et pour que les deux se parlent, eh bien, ils n'ont pas forcément le même langage. Et donc, on a tout fait pour que les 2 logiques des 2 systèmes et les langages se croisent.
On va parler maintenant de la préface de cet ouvrage. Plusieurs personnes y a participé, notamment Pape N. Dié. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette personne et de quoi parle cette préface ?
Bon, alors, pour nous, évidemment, sur un bouquin qui parle de pédagogie, parce que très longtemps, il faut quand même dire une chose. Moi, je l'ai connu en tant que prof et en tant qu'intervenant d'éducation populaire. Bien longtemps, dès que quelqu'un d'autre extérieur à l'éducation nationale disait qu'il allait faire de la pédagogie, il lui dit non, la pédagogie, il n'y a que les enseignants qui sont formés à ça. D'ailleurs, ils ne sont pas toujours formés, en plus, au demeurant. Et on le sait d'ailleurs actuellement sur les recrutements. Donc la pédagogie, ce n'est pas uniquement l'apanage de gens dont on dirait que c'est la profession. D'ailleurs, on le sait bien, le mot pédagogie est utilisé à toutes les sauces. Quand un gouvernement doit faire passer une mesure et que les gens se révoltent, ils disent « nous avons sûrement manqué de pédagogie ». C'est un mot facile à utiliser. C'est quoi la pédagogie ? C'est la capacité à transmettre quelque chose à quelqu'un. Et ça, c'est d'une part de la formation, puisqu'il y a des techniques, mais il y a aussi des choses comme le charisme qui passe, c'est-à-dire qu'avec les mêmes méthodes, il y a des gens qui vont réussir à faire passer quelque chose auprès d'enfants ou d'adultes, et puis d'autres qui vont pas réussir. Donc, il faut aller creuser là-dessus. Alors, puisqu'on parlait de pédagogie, il nous paraissait important que le ministre de l'Éducation nationale soit à nos côtés dans cette mission, et nous avons eu effectivement l'honneur, parce que c'était vraiment un immense honneur, parce que c'est rare, un immense honneur d'avoir Pape Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale, qui nous écrivent une préface. D'une part, pour rappeler que l'éducation aux médias et à l'information était actuellement une des priorités du système éducatif, que c'était transversal, que ça n'appartenait pas à une discipline particulière et qu'il fallait que l'ensemble des acteurs de la société, finalement, se retrouvent pour développer l'éducation aux médias et, entre autres, bien sûr, le lien avec les médias, qu'ils soient locaux, régionaux, nationaux, etc. Donc ça, c'était important. Ça veut donc dire que nous avons le soutien clairement affirmé dans cette idée de développer la pédagogie radiophonique du ministre de l'Éducation nationale, du ministre qui est en charge la problématique de pédagogie à l'échelle nationale, d'autant qu'aujourd'hui, l'éducation populaire a été rattachée à l'éducation nationale. Donc, c'était vraiment important. La deuxième signature importante, c'est celle de Roch-Olivier Maistre, qui est président de l'ARCOM. Alors, l'ARCOM, c'est l'ancien CSA, c'est l'autorité de régulation de l'audiovisuel, et qui a donc pour rôle en France de... par exemple, de distribuer les fréquences disponibles en radio ou télévision, et puis également de veiller à ce que il se passe des choses correctes par rapport aux citoyens et entre autres aux jeunes sur les médias. Et ils ont développé depuis quelque temps à l'ARCOM une vraie volonté de développer l'éducation aux médias et à l'information. Et donc, ils ont été évidemment très sensibles à ce témoignage et à cette analyse de terrain qui venait de partout en province. Ah voilà, c'est pas un ouvrage parisien, même si c'est le syndicat national des radios libres qui a son siège à Paris, c'est un ouvrage écrit par des provinciaux et ça se sent d'ailleurs dans le bouquin parce que quand on met côte à côte les différents témoignages, on a une cinquantaine de radios qui témoignent sur des choses qu'elles font, on sent bien cette expérience et ça, je pense que c'est quelque chose qui a animé beaucoup de sensibilité du côté de Roch-Olivier Maistre et de l'ARCOM, de dire oui, c'est bien que voilà, les médias eux-mêmes réfléchissent sur le sens de ce qu'ils font et le communiquent à d'autres, partagent, hein, c'est-à-dire on ne garde pas, ça c'est toujours un des problèmes quand on fait des choses dont on pense qu'elles tournent plutôt bien, on se les garde pour soi en disant on va pas se les faire piquer par d'autres. Alors là, on n'est pas du tout dans cette logique-là. Nous, on est dans la logique qu'il faut partager, transmettre. Si on a fait des choses bien, eh ben autant que les autres le sachent et développent chez eux quelque chose qui ressemble à ça, au lieu de repartir à zéro avec les mêmes erreurs qu'on peut être faites avant. Donc, on est dans le partage. Et donc, je le redis, l'ARCOM est aujourd'hui très préoccupé des questions d'éducation aux médias. Alors, pourquoi ? On peut le dire rapidement. Hein, c'est que ça devrait être aujourd'hui une grande priorité nationale. C'est bien que les réseaux sociaux aujourd'hui font des dégâts. On en voit tous les jours, on voit des drames terribles qui impliquent aussi bien des adultes que des jeunes, des enfants, enfin des suicides. Voilà, je rentre pas dans les détails, tout le monde a en tête ce qui s'est passé récemment dans l'Est de la France. Et les réseaux sociaux sont une caisse de résonance énorme. C'est-à-dire que si je prends le harcèlement, il y a toujours eu du harcèlement dans les écoles. Tout le monde a des mauvais souvenirs de camarades qui attendaient la sortie de l'école pour les tabasser ou de gamins qui se faisaient racketter. On parlait beaucoup du racket il y a 30 ans, on en parle beaucoup moins aujourd'hui, mais ça se passait directement physique à physique. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a une caisse de résonance énorme, en plus avec l'irresponsabilité qu'il peut y avoir chez certains jeunes, mais c'est pas propre aux jeunes. Beaucoup d'adultes font pareil, de partager. Donc finalement, tout le monde à un moment peut recevoir des informations, peut recevoir également des choses infâmes, infectes et dangereuses en plus, qui passent par les réseaux sociaux. Il est donc important que tous les éducateurs de France, quel que soit leur secteur d'activité, se préoccupent de se rapprocher toucher des jeunes comme des adultes pour leur dire attention. Les réseaux sociaux, un, c'est dangereux. Parce que n'importe qui peut dire n'importe quoi, y compris sans signature, alors que les médias, les radios, les journaux, les télévisions, eh bien, il y a de la responsabilité. C'est-à-dire, on sait qui est l'éditeur, on sait qui a réalisé le reportage ou le texte. Enfin, par exemple, moi, quand j'interviens dans des écoles, la notion que je veux toujours faire passer, c'est la notion de responsabilité. C'est-à-dire que dans les réseaux sociaux, on est dans le domaine de l'irresponsabilité. Dans le domaine des médias, on est dans le domaine de la responsabilité, avec la déontologie des journalistes, etc. Et c'est ça qu'il faut réussir à faire passer. Et donc, aujourd'hui, il y a urgence, parce que les réseaux sociaux sont des choses catastrophiques. J'ai entendu hier avec la mort de Philippe Tesson, le journaliste. En 1998, Philippe Tesson avait fait une chronique dans laquelle il disait « Internet, c'est dangereux, dans quelques années, il se passera ça, 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 ça. » Et ce qu'il a décrit, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec les algorithmes, avec l'intelligence artificielle, etc., qui est en train de prendre le pas sur l'intelligence humaine et la responsabilité humaine. En 98, alors que Internet n'était pas hyper développé à l'époque, il y a des gens qui voyaient ça. Mais aujourd'hui, il n'y a plus à se poser la question. Aujourd'hui, on est dedans. Donc il est urgent d'intervenir très rapidement et je pense que les radios locales, toutes les radios locales de France, du fait qu'elles sont 700 et qu'elles couvrent à peu près tout le territoire, que ce soit territoire français, métropolitain, outre-mer, les zones de montagne, enfin les zones isolées, la ville, les banlieues, etc. Il faut qu'on aille donner notre coup de main auprès de tous ceux qui sont chargés de l'éducation en France pour combattre contre ce mal énorme qu'est la mauvaise utilisation des réseaux sociaux. Je ne dis pas que les réseaux sociaux c'est mauvais. Ce qui est mauvais, c'est les utilisations qui en sont faites et qui sont promus des fois avec des volontés économiques, etc. Enfin voilà.
On va revenir un peu au livre. Justement, il est découpé en 5 parties. Est-ce que vous pouvez nous les présenter ?
Oui, alors on va sortir la première partie qui porte sur comment se parler entre les écoles et les radios. Et là, il y a toute une analyse qui est faite principalement par Pierre-Étienne Vampouille de Radio Temps Rodez sur la question des capacités de changement du système éducatif. On le sait aujourd'hui, on peut travailler sur quels sont les obstacles du changement, mais c'est valable pour l'éducation nationale, comme pour les entreprises, comme pour des institutions, des collectivités. Voilà, quels sont les freins au changement ? Donc il y a une réflexion là-dessus, parce que l'introduction de l'éducation aux médias avec une approche pédagogique comme celle que nous on propose, ça implique quelques éléments de changement dans les mentalités, entre autres dans le système scolaire, mais aussi pour les intervenants des médias. Avec l'idée, comment se parler, quoi, entre les deux. La deuxième partie, c'est sur les fake news, c'est-à-dire, on donne quelques pistes, c'est Pierre-Louis Dupré qui a plutôt travaillé là-dessus avec Théo Guiton, quelques pistes pour intervenir sur les fake news, alors avec des références de documents particulièrement intéressants, quelques références historiques, quelques exemples d'exercices, là on est plutôt assez concret. Et puis la troisième partie porte sur, alors c'est celle que j'évoquais tout à l'heure, sur l'approche éducation média, l'approche par compétence et la problématique de l'évaluation. Et la quatrième partie a été sur les expériences des radios. Là, c'est Laure Méraville de Montpellier qui a coordonné cela avec le retour d'une cinquantaine de radios. Et on a quelques expériences qui sont racontées, de reportages, d'actions en éducation dans des prisons, avec des maternelles, donc avec des publics divers et des formes diverses. Et puis la cinquième partie, c'est le fameux glossaire qui permet de croiser le vocabulaire des deux médias. Et puis, il y a surtout aussi tous les liens utiles pour accéder à des outils pour travailler sur l'éducation aux médias. Il y a la bibliographie, il y a la filmographie, quels sont les films dans lesquels, par exemple, on a un scénario qui est implanté à l'intérieur d'une radio ou de médias. Et puis, la biblio, voilà. Donc, c'est vraiment très, très complet. Je m'aperçois que j'ai oublié de citer Divina Fromex, qui est la troisième personne qui a préfacé le livre. Divina Fromex, qui est vraiment... Alors, une grande spécialiste de l'éducation aux médias, universitaire à la Sorbonne, de la chaire UNESCO à la Sorbonne, et qui apporte justement son expertise et sa reconnaissance d'universitaire par rapport au travail que nous avons accompli, quelqu'un de formidable dans ce domaine. Oui.
Et concrètement, pourquoi lire ce livre ?
Alors, c'est pas vraiment un livre qui est fait pour être lu, c'est un livre pratique. C'est-à-dire que les gens qui sont préoccupés des questions pédagogiques liées aux médias vont à un moment ou à un autre trouver des choses dedans. Je veux dire que tous les gens qui sont préoccupés de pédagogie peuvent même le lire parce que vraiment ça traite de la pédagogie avec une approche, on va dire parfois, pas, je vais pas dire révolutionnaire, mais qui se veut résolument autonome en quelque sorte. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire on a notre propre système de réflexion et on le soumet au lecteur. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des outils. Donc il est fait vraiment pour les gens de radio, les gens de médias. Il est fait pour les enseignants. Franchement, tous les enseignants qui veulent intervenir ou associer des médias en éducation aux médias ont tout intérêt, effectivement, je pense, à lire ce livre qui est vraiment une base de réflexion. Donc voilà, il y aura des suites. On le sait déjà maintenant. Il y aura des suites puisqu'on est en train de réfléchir actuellement au développement d'un projet européen pour donner une dimension européenne à ces deux notions. La notion de territorialité, c'est-à-dire une éducation aux médias qui se construit sur les territoires et non pas un truc qui descend de Paris. Voilà comment il faut faire l'éducation aux médias. Ah non, là on est sur une démarche assez originale et le renforcement justement de cette idée d'adaptation à chaque public, donc de la problématique pédagogique. Et ça, ce sera d'ici 2 ans, je pense.
Où peut-on acquérir ce livre ?
Alors c'est assez simple. Il suffit d'aller sur le site du Syndicat National des Radios Libres, le SNRL. Donc il suffit d'aller sur www.snrl.fr. En première page, en page d'accueil, vous avez un petit pavé, vous cliquez dessus. Vous pouvez le commander. Il est au prix de 15 euros, c'est-à-dire on l'a vraiment pas fait cher. Il est à peine au prix de réalisation. C'est 180 pages, hein, c'est 750 grammes. C'est du lourd ouvrage. Puis avec les frais de port, voilà, vous arrivez à 22 euros et il arrive chez vous. Par la poste.
Est-ce qu'il y a d'autres contacts à donner pour ceux qui souhaitent plus de renseignements sur ce sujet et peut-être sur le livre tout simplement ?
Oui, alors il suffit tout simplement physiquement pour les auditeurs de ce secteur de prendre contact avec Fréquence Cié à Ciel-Guillaume, donc à la cité scolaire, au 02 43 20 34 67 ou de prendre contact avec moi à eric.lucas@snrl.fr.
Un mot pour la fin ?
Oui, je suis bien content de revenir en interview dans cette radio, Radio Alpes-Mancel, dont j'ai été l'un des 60 fondateurs il y a maintenant 40 ans. Et donc, je suis bien content qu'on puisse, par le biais de Radio Alpes-Mancel, s'adresser aux enseignants, s'adresser à tous les gens qui sont intéressés par la pédagogie. Donc, merci à vous.
Alors, Eric Lucas, je vous remercie et j'espère que on aura donné envie, à nos auditeurs de découvrir toute cette pédagogie radiophonique. Et que voilà, ce livre aura un beau succès. Je vous dis à bientôt.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Sachant qu'un train quitte Rome à 17h23, qu'à 17h40 un autre part de Pise. Quand vont-ils se croiser ? Quand vont-ils se croiser ? Étant à mi-distance à 18h33, et où s'arrêteront-ils en cas de grève surprise ? Sachant qu'un paysan qui s'en va au marché retranche de francs 50 chaque fois qu'il les ajoute. Dites combien de choux-fleurs ne seront pas vendus au prix qu'ils ont coûté. Et combien d'artichauts finiront sur les routes. Sachant que le terrain cédé par la commune a triplé de valeur en l'espace de 2 ans. Calculez la valeur d'un studio vu sur mer à Marina Lagune. Compte tenu que le maire a touché 5%. Interrogation écrite, fermée, livrée, cahier. Vous avez 10 minutes, je vous donne jusqu'au quart. Sachant qu'une ménagère qui fait des provisions transporte 6 litres d'huile par jour dans son chariot. Combien de litres d'huile seront stockés chez elle durant les élections. Sachant qu'elle a moins d'huile que de sucre en morceaux. Sachant qu'un ouvrier qui travaille dans le métro met chaque mois de côté 100 francs pour le percepteur. Trouvez ce qui lui reste pour faire comme les copains et pour perdre au loto. On pourra tout arrondir au franc inférieur. Sachant qu'un camion vide pèse 4 tonnes 500, que Jean le camionneur est toujours en surcharge. Combien j'en fera-t-il d'aller-retour Toulouse-Roubaix sans accident. Étant donné que Jean est payé au voyage. Interrogation écrite, fermée, livrée, cahier. Si j'en vois un qui parle, je le colle pour samedi. Sachant qu'un pétrolier, malgré sa faible allure, ne peut pas manœuvrer lorsque ses cuves sont pleines. Combien de kilomètres de côtes seront polluées par les hydrocarbures. Quel est son pavillon et l'âge du capitaine. Sachant qu'une industrie exporte à l'étranger tantôt des lots de 100, tantôt des lots de 1000. Trouvez le nombre exact de chars et de roquettes exportés chaque année. On ne tiendra pas compte des années bissextiles. sachant qu'en 3 minutes une baignoire se remplit, mais que l'on n'utilise qu'un seul des robinets. Si l'on y plonge un corps, si l'on y plonge un corps, vu que tout corps plongé dans l'eau sera molli. Dites quand le physicien finira par avouer. Interrogation écrite, fermée, livrée, cahier, que ceux qui ont fini me remettent leur copie.